expliquer le nœud même de ce que je voudrais présenter. Et puis Véronique Barthélémy a fait aussi une petite allusion avec l'Osana de l'histoire. Alors, je vais... Il faudra que j'écrive une ou deux choses. D'abord évoquer la généalogie de cette civilisation de l'amour. Je vois Soloviov, Vladimir Soloviov, qui a été l'auteur de la théocratie libre, puis Berdiaev, qui est l'auteur d'un nouveau Moyen-Âge, puis Maritain, qui fait une distinction entre la chrétienté sacrale et la chrétienté profane, et enfin Paul VI qui parle de civilisation de l'amour. Donc il y a toute une généalogie qui commence avec des auteurs russes que je vous signale, qui sont plus sensibles peut-être à la dimension eschatologique. Alors pour l'histoire n'est pas une science. L'histoire, c'est une sagesse. Qu'est-ce qu'on demande à l'historien ? D'être exact sur ce qui l'apprend sur le passé. Et il faudrait faire une distinction entre deux aspects du temps qui peuvent éclairer ce propos. En français, on n'a qu'un terme pour parler du temps. En grec, il y a deux termes. Le premier terme, c'est chronos, c'est celui de l'historien. L'historien est au bas de la montagne et il compte les chameaux de la caravane. Ce qu'on lui demande, c'est de ne pas se tromper. Et puis, vous avez le prophète qui est, lui, sur le haut de la montagne. C'est le kairos, K-E-I-R-O-S. C'est le temps prophétique. Il est sur la montagne, il voit toute la caravane d'un seul regard, contrairement à l'historien qui doit se borner à ce qui lui arrive sous les yeux, et puis qui ne sait pas situer dans le temps, chronos, cette vue d'ensemble qui est suprarationnelle, qui est surnaturelle. Le prophète reçoit une lumière théologique, une lumière de Dieu, comme Isaïe qui annonce la naissance du Christ, mais 800 ans avant Noël. Et il le fait comme si ça devait avoir lieu le lendemain matin. Donc le prophète ne peut pas indiquer la date, mais il indique l'événement dans sa plénitude. Voilà la différence entre donc, ces deux regards sur l'histoire. Alors, on a parlé de civilisation de l'amour. Est-ce que c'est une utopie ? Aux yeux de la raison, c'est une utopie. Aux yeux de la foi, et c'était ce regard que Paul VI avait, c'est une réalité, il emploie le futur, et il nous propose quelque chose qui n'est pas donc une utopie, mais une réalité. Comment le sait-il ? Eh bien, sous l'influence du Saint-Esprit. Alors maintenant, quand on a dit qu'il y aurait une civilisation de l'amour, après tout, le New Age a aussi évoqué un deuxième jardin idéal où l'humanité pourrait enfin devenir plus humaine. Mais là, on est en pleine gnose, on est en pleine invention, c'est l'œuvre de l'imagination. Au fond, pour un chrétien, il n'y a qu'un deuxième jardin, c'est celui de la résurrection, où Madeleine va annoncer aux apôtres la résurrection du Christ. Et où se trouve notre civilisation de l'amour, là ? Alors, moi, je vous propose quelque chose dont on trouve des éléments chez Bonaventure. On en trouve aussi chez Nicolas de Cusa, aussi. Et dans le cardinal Journet également, il propose un certain nombre d'idées. Ce serait si le Christ, si le corps mystique du Christ, c'est l'Église, si l'Église, c'est le Christ dans l'histoire, si c'est l'Église qui est le corps du Christ communiqué dans l'histoire, Alors là, on a quand même, mais pour celui qui croit, et en se basant sur l'Évangile, un certain repère. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une certaine analogie entre le déroulement de la vie du Christ que nous connaissons par l'Évangile, bien que ce ne soit pas une histoire ou science moderne, et puis le déroulement de l'histoire de l'Église? Alors, ici, il faut faire une petite distinction. Il ne s'agit pas de ressemblance, mais d'analogie. Un baromètre et un réveil, ça se ressemble, ça n'a aucun rapport. En revanche, une montre à quartz et un cadran solaire, ça ne se ressemble pas du tout, mais ça montre dans l'essence, celle des deux, l'heure. C'est-à-dire, il y a une véritable analogie. Mais il y a aussi deux analogies. Il y a d'abord l'analogie de proportion, l'intelligence humaine, l'intelligence angélique, l'intelligence divine, une certaine analogie. Ça ne veut pas dire qu'on puisse connaître vraiment l'intelligence divine, mais on sait que c'est plus grand que les anges. Et puis, cette analogie est inutilisable dans le schéma que je vous propose. Mais il y a une autre analogie, c'est ce qu'on appelle une analogie d'attribution. Par exemple, un climat salubre et un livre de cuisine, ça n'a aucune analogie de proportion, mais ça a une certaine analogie d'attribution par rapport à ce qu'on appelle l'analogué, qui est la santé. Ce qui rapproche un climat, un lieu salubre et le livre de cuisine, c'est la santé. Bon. Alors, moi, mon analogie aussi va être une analogie d'attribution. Et l'analogué principal, c'est le Christ. C'est le Christ. C'est donc la vie du Christ qui va peut-être pouvoir nous instruire sur le développement de l'Église. Alors là, c'est la foi, hein, qui peut simplement nous guider. Alors, les différentes étapes de la vie du Christ, la naissance, la vie cachée, ensuite la vie publique. Et notons tout de suite que le temps va connaître une accélération bien remarquable. 30 ans de vie cachée, 3 ans de vie publique, 3 jours de passion, 3 heures d'agonie. Comme si des événements de grande importance demandaient de moins en moins de temps. Donc, il y a eu une croissance qui pourrait s'appliquer à l'Église aussi. Et ce que Daniel à Lévi avait déjà remarqué en 1945, on a sous les yeux une accélération de l'histoire. Des événements qui maintenant se passent en 5 ans demandaient 1000 ans antérieurement. Donc il y a une accélération de l'histoire qui doit nous aider à lire cette analogie entre la vie du Christ et la vie de l'Église. Alors, évidemment, il faudrait se méfier du Concordis. Moi, je me borne à vous donner quelques points de repère. Quand le Christ apparaît, il y a l'extermination des saints innocents. Quand l'Église commence, il y a les 3 siècles de persécution et de martyrs. Quand le Christ, l'enfant à 12 ans, est au milieu des docteurs, eh bien, au 4e siècle, à la suite justement des persécutions, c'est le temps des grands docteurs grecs et latins qui vont faire ce credo qui va être décisif. On peut dire que Saint Jean Chrysostome, on peut dire Saint Augustin, on peut dire que tous les pères grecs et latins sont un peu comme les docteurs qui entouraient Jésus à 12 ans. Et puis ensuite, c'est la vie publique. Alors comment elle va se manifester? C'est l'évangile qui va être répandu où? Dans les grandes chrétientés orientales et occidentales, c'est le message de l'évangile qui va être annoncé, c'est la vie publique du Christ. Avec, je signale quand même un événement, la multiplication des pains, où on veut faire du Christ le roi. Et il y a eu une tentation, en Occident en tout cas, de théocratie, où les papes au XIIIe siècle se sont crus les chefs non seulement du spirituel, mais même du temporel, et se pensaient qu'ils étaient en mesure d'émettre les empereurs. Ça va être Grégoire VII avec Canossa. Donc il y a eu une sorte de tentation théocratique qui ensuite, avec le déclin de cette chrétienté médiévale, à partir de Boniface VIII, les rois, à commencer par Henri Philippe IV, vont se libérer de l'influence de la papauté, qui va perdre ce prestige qu'elle avait eu en Occident. Et puis en Orient, ça va être la chute de Constantinople. Donc on va assister. Et dans l'évangile aussi, on assiste au début, le Christ est populaire, le Christ a le peuple pour lui, mais les pharisiens deviennent de plus en plus offensifs. On voit même le Christ avec ses apôtres qui va être obligé de se cacher. Et là, c'est une autre période de l'histoire de l'Église, d'anticléricalisme, de laïcisme, où l'Église va faire l'objet d'anticatholicisme, d'anti. La chrétienté va être remplacée par la sécularisation. Alors, Maritain fera la distinction entre la chrétienté sacrale, où le spirituel se sert du temporel, et puis la chrétienté profane, pluraliste, où la liberté s'impose. Alors, la civilisation de l'amour reviendrait quand? Alors, bon, à tout hasard, je vous signale que l'entrée de Jésus à Jérusalem est évoquée par les quatre évangiles, ce qui est très rare. C'est un des rares passages avec, même pas la Passion, puisque Saint Jean n'évoque pas le Jeudi Saint, vous savez. Mais les quatre évangiles donnent une importance étonnante à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus s'est caché et avec ses apôtres, il revient vers Jérusalem et il va demander à un ânon, et non pas un cheval de guerre, mais un ânon qui a eu d'ailleurs un rôle même antérieurement, notamment avec la fuite en Égypte. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend Hosanna, ça veut dire Dieu sauve, au fils de David. Au plus haut des cieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fils de David, c'est l'humanité du Christ, dont l'ancêtre est David. Au plus haut des cieux, c'est sa divinité. Donc, pendant un moment, une journée, l'Église va connaître un triomphe où le peuple qui a été choisi et formé pendant 2000 ans va acclamer son Messie comme homme, fils de David, et comme Dieu, au plus haut des cieux. Et puis les pharisiens vont protester et vont dire fais-les taire. Et le Christ répond, s'ils se taisaient, les pierres elles-mêmes crieraient. Donc, dans le plan de Dieu, cette entrée à Jérusalem est très importante et montre quel était le projet de Dieu, qui n'a pas pu se réaliser parce que le peuple juif choisi, formé, ne l'a pas accepté. Et ce sera la passion qui va suivre presque immédiatement. Et cette passion va entraîner la mort du Christ. Alors, pour l'Église, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que l'Église pourra connaître un moment de rayonnement planétaire, temporaire, qui sera suivi de ce que Saint Paul annonce, la grande apostasie, où l'Église. Ça, c'est la passion du Christ qui suit l'entrée triomphale à Jérusalem. Triomphale, pas pour tout le monde. Ce sont les enfants, nous dit-on, qui crient. Les pharisiens ne veulent pas en entendre parler. Donc, il y aura toute une opposition qui restera très vivante, même pendant cette période, qui pourra correspondre, on peut l'imaginer, avec la conversion du peuple juif qui a été prédit par saint Paul. Donc, le peuple juif se convertissant apporterait, comme saint Paul l'annonce, des forces exceptionnelles dans l'évangélisation. Et puis ensuite, saint Paul, toujours, annonce l'homme de l'impie et l'apostasie, c'est-à-dire l'Église pourrait paraître extérieurement comme morte, Et cette église morte comme son fondateur, comme le Christ lui-même, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus personne, mais que ce sera caché et l'église paraîtra morte. Et le rôle. Et puis, la résurrection serait quoi? La résurrection, ce serait la parousie. Parousie veut dire présence, le retour du Christ. Alors, j'avoue que ce parallélisme, moi, me paraît intéressant. Il faudrait maintenant situer où est-ce qu'on se trouve. Est-ce qu'on se trouve à une longue distance avant l'entrée de Jérusalem, de Jésus à Jérusalem, avant l'hosanna de l'histoire? Ou est-ce qu'on est proche ou loin? Et puis, quand on y arrivera, faut savoir qu'ensuite, il y aura le drame, la passion, la grande apostasie. Alors, pour compléter ce parallélisme, on peut en ajouter un autre. Dans le christianisme, quel est le cœur même de la vie chrétienne? C'est la messe. Eh bien, le déroulement de la messe dans le rite romain et dans le rite byzantin, peuvent aussi être lus avec cette méthode. Vous avez au début de la messe le Kyrie qui correspond à la persécution. On demande Dieu. On a aussi le Gloria que les anges chantent au moment de la naissance. Et puis, la vie publique du Christ, eh bien, c'est la lecture de la partie de la messe, de la parole. Jésus qui prêche, eh bien, là, c'est le prêtre par son homélie, c'est la lecture de la parole. Ensuite, il y a l'hosanna, le sanctus, même dans la liturgie byzantine, c'est encore beaucoup plus solennel. Il y a une véritable procession aussi, qu'on ne trouve pas chez les catholiques, mais enfin, le sanctus, c'est quand même un moment décisif. Et après, il y a la consécration. Après, il y a la consécration, qui évoque la mort du Christ. Et ensuite, quelle est la dernière étape? Qui pourrait évoquer, selon vous, à la fois la parousie et la résurrection. Comment?
La communion.
C'est la communion. C'est la communion. La communion, c'est la présence du Christ. La parousia, ça veut dire aussi présence. Quand le gouverneur allait dans sa province, c'était. Et là, c'est la présence du Christ qui devient par la communion. Alors, on a donc trois lignes analogiques. Le déroulement dans l'évangile, le déroulement de l'histoire de l'Église, dont nous connaissons le chronos de manière encore très partielle, et puis le déroulement du mystère de l'Eucharistie, qui, dans la liturgie aussi bien latine que byzantine, peut être mis en analogie avec le déroulement de la vie du Christ. Donc ces trois parallèles peuvent nous instruire, nous permettre, avec Paul VI, de prophétiser. Peut-être nous trouvons-nous à la veille de la civilisation de l'amour. On peut dire que nous avons des moyens que nous n'avions pas hier. Il fallait 8 mois de bateau pour aller en Chine. À la fin du XVIIIe siècle, maintenant tous les Chinois, en tapotant sur leur ordinateur, peuvent entendre ce qu'a dit le matin le pape. Donc, on a un moyen absolu de neutraliser le temps, l'espace, et même d'une certaine manière le temps. Et c'était une des conditions du retour du Christ aussi, que l'évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, nous sommes en train, depuis 50 ans, nous, d'avoir une idée de ce que pourrait être l'apostasie. Maintenant aussi, seul Jean parle de l'Antichrist, au pluriel et au singulier. Saint Paul en parle aussi beaucoup, mais sous un autre titre, de l'homme impie. Il explique qu'il fera des miracles extraordinaires et que une grande partie des chrétiens le suivront. Vladimir Soloviov, avant de mourir à 47 ans, a écrit le court récit de l'Antichrist et, de manière un peu polémique, estime que 90%, 99% du clergé suivrait l'Antichrist. Bon, espérons qu'il y en aura un pourcentage un peu moins fort, mais enfin, l'Antichrist est une réalité annoncée par saint Paul. Mais l'Antichrist, contrairement à ce que Follereau le pense, ce n'est pas un chef de guerre. Vous savez que dans l'Apocalypse, il y a deux bêtes, la bête de la mer et la bête de la terre. Et l'Antichrist, ce sera un spirituel, ce ne sera pas un homme politique. L'homme politique se mettra au service de cet homme spirituel. Ce sera une étoile qui tombera, ce sera une apostasie, ce sera... Et le premier Antichrist, de ce point de vue-là, c'est Judas. Or, Judas est un apôtre. Il y a eu 12 apôtres dans toute l'histoire humaine. Et alors lui, on voit, c'était un spirituel. Hein. C'est pas l'Antichrist, c'est pas Hérode, c'est pas Pilate, c'est pas le pouvoir politique. C'est un apôtre. C'est lui qui trahit. Et nous avons donc aussi à regarder que les anges ont connu une chute. La nature du péché de l'ange, c'est probablement la connaissance de l'incarnation qui a provoqué la jalousie de l'ange. Voyant qu'il aurait, lui, à adorer un homme, Dieu, à être sous une reine qui est une pure créature, a provoqué sa jalousie. Donc c'est un péché spirituel. Et l'Antichrist commettra un péché spirituel, dont tous les péchés, d'ailleurs, contribueront à faire l'éclosion. Voilà, moi j'ai fini mon petit discours. Simplement, il faut se souvenir que l'historien est bien incapable de faire autre chose que de compter les chameaux. C'est donc chez les prophètes. Et nous avons depuis quelques années un prophète d'un style nouveau, c'est la sœur Faustine. Aucun mystique, même les plus grands, n'a eu pour tâche, comme sœur Faustine, de préparer le retour du Christ. Il y a tout dans le petit journal, toute une partie du discours où sœur Faustine est envoyée dans le monde pour préparer le monde au retour du Christ. Rappeler que la miséricorde, eh bien, elle s'arrêtera au moment de la mort. Ce sera à ce moment-là la justice. La colère et la justice de Dieu sont adorables. Tout ce qui est en Dieu est adorable. Il ne faut pas opposer la justice et la miséricorde. Mais tant que nous sommes libres, nous pouvons recevoir la miséricorde. Quand nous mourrons, nous n'avons plus que trois solutions. Enfin, plus que trois solutions, ça en fait pas mal. La première, c'est d'aller directement au ciel. La deuxième, c'est le purgatoire. Le purgatoire, qu'est-ce que c'est? C'est une prison. Notre vie sur Terre, qu'est-ce que c'est? C'est un exil. Nous ne sommes pas en prison sur Terre. Notre liberté fait de nous des gens qui peuvent changer la face des choses. Et puis, l'enfer. L'enfer qui est possible, on n'ose pas trop en parler, mais on peut faire remarquer une chose, c'est que l'information la plus complète que nous avons sur l'enfer et la GM, elle n'est pas dans la bouche des prophètes, elle est dans la bouche du Christ, qui est le Sauveur. C'est le Sauveur qui nous parle de manière la plus explicite de l'enfer. Nous dire que l'enfer n'est qu'une possibilité théorique, c'est faux, c'est une réalité. Je pense à Urs von Balthasar, dont les deux derniers livres essaient de nous expliquer qu'il n'y aura personne en enfer. Eh bien, les mystiques, et à commencer par la Vierge, qui, devant une enfant de 7 ans, une autre de 10 ans et un autre de 9 ans, a montré l'enfer. Et la petite Jacinta ne s'en est jamais remise. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on ne serait pas capable de regarder pourquoi c'est important. Si vous dites qu'il n'y a personne, c'est d'abord faux, et ensuite, ça vous endort. On n'a pas besoin de se tracasser. Si vous savez que tant que vous êtes libre, tant que vous êtes sur cette terre d'exil, mais pas en prison, vous pouvez sauver chaque jour des âmes, pas par vos mérites, mon Dieu, par les mérites du Christ, qui sont notre trésor et dont nous devons user les mérites pour sauver ce qui est perdu. Ce qui, il faudrait être même plus précis, ce qui est en train de se perdre. Parce que quand c'est perdu, c'est définitif. Mais quand ce n'est pas encore perdu, on peut sauver. Et alors là, au fond, la leçon, et c'est un peu fatigant, alors les gens préfèrent qu'on leur dise qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'on doit sauver, contribuer avec les mérites du Christ à sauver les âmes. Et tous, nous sommes appelés soit à aider les âmes du purgatoire, qui ne peuvent plus rien pour elles-mêmes, et qui sont en prison, selon l'état où ils sont morts, ils sont morts, ou ceux qui sont en enfer et qui ne peuvent plus et qui sont... C'est inimaginable pour nous. C'est vrai que c'est inimaginable. Même les récits les plus précis, les plus grands mystiques, comme de Don Bosco qui a des récits là-dessus, ça nous dépasse. Mais ce n'est pas parce que ça nous dépasse, au fond le ciel nous dépasse aussi, ce n'est pas parce que ça nous dépasse qu'il faudrait le nier. Et je vois... Urs von Balthasar, qui est certainement un origène par son savoir et sa culture, a été nommé évêque, cardinal. Il est mort 2 jours avant. C'est peut-être que son livre qui venait de paraître correspondait peut-être pas à la vérité qu'on attendait d'un cardinal. Mais ça, c'est moi qui invente cette sanction. Après tout, il n'a pas été nommé vraiment cardinal. On met sur ses livres cardinal, mais non. C'est comme un prêtre qui serait mort 2 jours avant son ordination. Ben, il n'est pas prêtre. Il aurait pu être prêtre. Et comme Origène, d'ailleurs, Origène a développé toute une théologie de l'apocatastase. C'est-à-dire que toute l'histoire du monde serait cyclique et que les anges eux-mêmes devraient être sauvés. Et au troisième concile du Constantinople, la théologie d'Origène, qui était le plus grand génie que l'Église connaissait, a été condamnée. Donc, Urs von Balthasar, talentueux théologien, est parti sur cette théologie de pour mais c'est vrai que c'est une la pensée de l'enfer est terrible et il y a une thèse qui a été soutenue à Rome de quelqu'un qui dit maintenant dans les funérailles on dit aux gens ne vous inquiétez pas tout le monde est sauvé tout ça ça correspond pas à la vérité ça correspond pas à ce que le Christ dit et si ça nous paraît trop dur on a quand même un recours. C'est que ça nous réveille et que ça nous incite à sauver. On peut sauver que des gens ne seront sauvés que par notre intervention. Ce n'est pas que Dieu n'aurait pas pu le faire autrement, c'est qu'il a voulu le faire par nous. C'est ce que Paul appelle les coopérateurs de Dieu. Et je termine en évoquant la Vierge. Vous savez qu'il a été question à un moment de la proclamer co-rédemptrice. Et puis tous les mariologues se sont opposés, Laurentin en tête. Je lui ai demandé d'ailleurs pourquoi il avait pris cette initiative, il m'a répondu pour ne pas faire de la peine aux protestants. Bon, ça c'est peut-être pas une réponse là. Moi je pense que Marie, et ce sera, si on en croit la vision d'Amsterdam, ça deviendra Marie co-rédemptrice et on peut situer un moment tout à fait capital de la vie de Marie. Quand le Christ meurt, au moment où l'Église vient de sortir de son cœur, pendant 40 heures, le cœur du Christ ne battra pas. Mais le cœur de Marie, qui est uni au cœur du Christ, va battre. Et pendant 40 heures, c'est par le cœur du Christ que l'Église vit. Et donc, elle a un rôle tout à fait remarquable qui lui mérite amplement cette dignité merveilleuse de co-rédemptrice. Nous pouvons l'être d'une certaine manière, submodo, dirait saint Thomas, à notre manière, qui est beaucoup plus humble. Mais Marie, quand elle tenait dans ses bras le Christ au moment de la descente de la croix et ensuite jusqu'à la résurrection du Christ, c'était son cœur uni, on va le fêter demain d'ailleurs, samedi, à celui du Christ qui ne battait plus, mais le sien battait. Voilà. Et dans son... N'oubliez pas que quand l'ange Gabriel a l'annonciation, son cœur aussi, c'est du sang de son cœur qui a été l'instrument de l'incarnation. Alors, voilà, là maintenant, je termine.
Je voudrais vous poser deux questions. Première, vous venez de parler de la vision d'Amsterdam, je ne sais pas ce que c'est. Oui, et la seconde.
De tous les peuples.
La seconde, c'est que il y a une époque où on rencontrait beaucoup de gens qui étaient contre. Oui. Et que maintenant, on trouve des gens qui s'en foutent. Vous voyez cette expression-là. Moi, j'ai mes petits-enfants, qui c'est eux qui me préoccupent. Tout ça, ça sert à quoi? Il a 15 ans, 16 ans. Je suis peut-être celui avec lequel il peut parler. Hein. Mais de voir l'indifférence, et on ne sait pas par quel bout prendre les choses, mais dans l'ensemble... Hein,
c'est votre...
Moi, j'ai été au tribunal de commerce autrefois. Eh bien, tous les juges faisaient partie des juges chrétiens, tout ce que vous voulez. Maintenant, personne ne s'occupe plus de rien.
Ce qu'il y a de plus convaincant pour votre petit-fils, c'est votre foi.
Ah, mais j'espère, oui.
Voilà, c'est ça qui est convaincant. C'est de voir un chrétien. Voilà. Oui. De même pour la famille, il faut qu'on voit des familles chrétiennes. Oui. Sinon, on sera tout de suite des...
Mais récemment, comme ça, j'avais lui écrire et... bon, je lui... je ne peux pas lui dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton prochain chrétien. Alors, je lui dis, écoute...
Il faut mieux l'éviter, oui.
Non, je lui dis, ce qu'il faut, si tu veux trouver un sens à ta vie, essaie de donner de la joie aux autres. Parce que je suis persuadé que si il fait quelque chose pour son prochain, il retrouvera le Seigneur.
Absolument. Mais ce qu'il y a de plus convaincant, c'est un témoin.
Ouais. J'ai une question à vous poser.
Oui.
Une question à vous poser. Avant que vous ayez parlé des coopérateurs de Dieu, vous avez semblé dire que grâce à nos mérites ajoutés à ceux du Christ, on peut sauver des gens.
Oui.
Mais ces gens, ils seront sauvés si ce n'est pas nous qui aidons le Christ, ce sera d'autres qui aideront le Christ.
C'est ça, bon, je crois qu'il y a un travail suffisant. Ah, oui. Quand on voit l'apostasie, personne n'est trop. Hein. Plus on sera nombreux...
C'est ce que je veux dire.
Ah, ben, bien sûr. Mais il y aura peut-être des cas où notre non-participation aura pour conséquence la perte de quelqu'un.
Oui, mais père...
Attendez. Comment ?
Qu'est-ce que c'est pas une transaction, cher que, ami. C'est pas une transaction.
Non, mais Pavel a droit à certaines compréhensions. Hein. On n'est pas économiste pour rien. Mais c'est l'économie du salut là, qui doit jamais être séparée de l'économie politique et sociale.
Jésus, je vous aime, sauver les âmes, c'est aussi court qu'une transaction.
Mais on est tous sauvés. Le Christ nous a tous sauvés.
Mais on n'a pas tous accepté.
Ben voilà, c'est l'acceptation.
Ah ben voilà.
Et la communion des saints fait que certains peuvent aider les autres.
Voilà. Oui.
Et cette aide des autres, écoutez, je crois que vous êtes quand même familier avec une dévotion qui est, par exemple, les âmes du purgatoire, où on peut faire quelque chose pour elles.
Oui.
On peut faire diminuer. Oui. On souffre beaucoup plus au purgatoire qu'on peut souffrir sur Terre. Oui. Et la souffrance la plus affreuse du purgatoire, c'est d'être séparé de Dieu, même provisoirement.
Oui.
Je ne parle pas de l'enfer, mais là... et on peut... Le mépris avec lequel, malgré l'Église, on parle des indulgences, constamment pour l'année de la foi, tout ça, Rome a dit qu'il y aura des indulgences plénières qui peuvent être appliquées à d'autres. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'une indulgence? C'est un trésor que les saints constituent et qui peut aider d'autres. Un jour, le curé d'Ars a confessé à quelqu'un qui avait commis tous les crimes qu'on peut théoriquement faire, et il lui a dit, comme pénitence, vous réciterez un ave. Alors l'autre a dit, c'est pas beaucoup. Et le curé d'Ars a dit, je compléterai. Vous voyez, ça se passe comme ça. On complète pour d'autres.
Si le curé d'Ars n'avait pas compléter, il y en a d'autres qui compléteront.
Hein? Donc c'est...
Je n'ai pas compris. Donc, le Christ est mort, et Marie, non.
Le Christ est descendu de la croix dans les bras de Marie.
40 heures.
Là, on est dans Chronos.
Au calvaire.
Là, on est dans Chronos.
Oui.
Là,
on est dans Chronos. On
le Christ est descendu de la croix et la Vierge contribue à enlever la couronne d'épines. C'est ce qu'on voit, la Pietà.
Pendant sa mort.
Au moment de l'Assomption, mais je vois où tu veux en venir, le pape Pie XII n'a pas voulu se prononcer. Les orthodoxes parlent de dormition, les catholiques parlent d'Assomption, mais le dogme qui a été proclamé le 1er novembre 1950, Pie XII, malgré le témoignage d'un petit enfant, qui a demandé à être reçu par le pape, un enfant de 5 ans, et avec un message, qui a vu seul à seul Pie XII, il n'a pas voulu se prononcer sur si la Vierge était morte ou pas. Et François de Sales dit, c'est dans une extase qu'elle est montée au ciel.
Et le petit garçon, c'est pas ce qu'il a dit.
C'est un petit garçon qui a expliqué à ses parents qu'il avait quelque chose à dire au pape. Oui, mais avant là.
Mais on sait ce qu'il a dit, le petit garçon?
Non.
Non,
on
ne
sait pas. Et donc, le dogme ne prévoit pas de dire si elle est morte ou pas. Alors, est-ce que c'est dans une extase que ce qu'on sait, c'est que son corps est au ciel. Alors, nos amis orthodoxes parlent de la dormition, nous parlons de Marie au ciel, avec son corps.
Je pensais que c'était unique, il s'agit d'unique division qui n'existe pas.
Qui
n'existe pas, ça, parce que la différence entre l'ascension et la dormition, pratiquement...
Pas l'ascension, l'assomption.
Ah, l'assomption. Alors, comment... J'ai compris de tes paroles que la différence existe.
C'est-à-dire, Pie XII n'a pas voulu se prononcer, parce que les théologiens n'étaient pas d'accord.
Ah oui.
Mais François de Sales, qui a des vues, dit c'est une extase. Alors ça résout un peu le problème. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Alors est-ce que à un moment, son corps, comme le Christ d'ailleurs...
Comme le Christ.
Alors, mais oui. La différence... C'est que le corps du Christ, le cadavre du Christ, était adorable. Parce que la divinité était unie au cadavre du Christ.
Hein?
Était adorable. Et la divinité était unie à l'âme du Christ. Marie n'est pas Dieu. Donc si, pendant un bref moment, son corps avait été vraiment séparé de son âme, quel est le statut de ce corps ? Il n'aurait pas eu d'âme, il serait le psaume, elle n'a pas eu le péché originel, donc elle ne doit pas connaître la mort aussi. Il y a un argument qui est très fort. Le péché originel...
Le Christ non plus n'a connu la mort, lui, puis il n'a pas eu un péché.
Oui, mais il a voulu prendre tous les péchés, lui.
Oui.
Il a pris tous les péchés,
d'accord,
qui méritaient donc la mort.
Ouais,
donc il est mort pour sauver ceux qui avaient péché.
Y compris sa mère qui n'a pas péché.
Et sa mère, n'ayant pas péché, ne devait pas mourir. Et alors, il y a une tradition, toujours François de Sales, qui dit que Saint-Joseph, dont on n'a pas de tombeau, aurait connu une assomption.
Alors, c'est là, on est d'accord, il n'y a pas de tombeau.
Comment ?
Il n'y a pas de tombeau.
Pas de tombeau.
Alors, c'est là, on est d'accord.
Il n'y a pas de tombeau de Joseph.
Mais quand même, donc, la foi, selon la foi orthodoxe, le Christ vient pour prendre Marie en corps et en âme.
Oui, et les icônes, on voit une petite Marie blanche qui représente son âme, que le Christ prend. Mais les orthodoxes insistent sur le mot dormition, c'est-à-dire, et les catholiques sur le fait que le corps est dans le ciel.
Alors, tu rajoutes Joseph, mais j'ai entendu le père Marie-Dominique Philippe, bon, il n'a pas bonne presse en ce moment, mais raconter que Saint Jean aussi.
Oui, absolument. C'est Gertrude la Grande, qui demande à Saint Jean pourquoi, parce qu'il y a un passage très curieux dans le Saint Jean, où Pierre se retourne et il dit « Et lui ?» Et le Christ lui répond « Ça ne te regarde pas, mais si je veux qu'il reste jusqu'au bout. » Et Gertrude la Grande dit que Jean est monté au ciel sans mourir, comme Élie, comme
Enoch.
Attends, qu'est-ce qu'il y a encore une chose qui a été dite? Les apparitions de Catherine de Catherine Labouré.
Ah oui.
C'est très intéressant. Elle est rue du Bac. Elle voit un ange, un petit enfant de 5 ans, qui vient la réveiller et qui lui dit « Va dans l'église ». Elle va dans l'église et elle ne voit pas la Vierge, mais elle entend le froufrou de sa robe. Et elle va s'asseoir sur une chaise et Catherine Labouré vient près d'elle. Donc le corps, c'était une annonce de l'Assomption. C'est-à-dire que Marie est avec son corps et pas... Si sa robe fait du froufrou, c'est qu'il y a un corps. Comment ?
Même le coussin du fauteuil.
Et oui, et le coussin du fauteuil. Et puis aussi, l'infaillibilité n'a été exercée que deux fois. Pour l'Immaculée Conception et pour... Mais ça, c'était avant le dogme. Et pour l'Assomption. C'est le seul fois après le dogme de l'infaillibilité où le pape s'est engagé de manière dogmatique.
Jacqueline, à l'île Bouchard, a touché aussi la main de la Vierge et a senti sa main tiède, elle a dit.
Oui, il y avait une religieuse qui était agacée, elle ne voyait rien, et voyait les trois petites filles qui regardaient. Et son chapelet est tombé et s'est cassé. Alors, Jacqueline dit... Alors, Marie s'est mise à sourire et on a vu ses dents. Oui, c'était pas du cinéma, là. Bon. Et alors, à Amsterdam, il y a eu... moi, j'ai rencontré la voyante, qui est morte maintenant depuis longtemps... la Vierge dit qu'on proclamera ce dogme de la corédemptrice. Elle ne dit pas l'année, mais elle dit que ce sera un pape et elle indique que ce sera le jour de la fête de sa visitation. Alors, le premier évêque a refusé de reconnaître cette apparition. Et Jean-Paul II a fini par trouver un franciscain qui a reconnu la validité de cette apparition. Et vous pouvez, à Amsterdam, visiter la petite chapelle. La voyante a dit qu'on bâtirait une grande basilique dont elle a montré les plans. Elle s'est même promenée dans la basilique. C'est un petit peu comme l'escalier, là. Quand vous visitez l'endroit, ce qui est étonnant, on est en plein Amsterdam et il y a un immense no man's land autour. Donc la place est dégagée pour construire cette basilique dont elle a visité, elle est entrée dedans, elle a vu comment c'était, et on a pu faire une petite maquette qui est devant la petite chapelle. De la future, il y a deux dômes, ça ressemble un petit peu au style russe. Donc écoutez, on peut ne pas le croire, c'est pas de foi, voilà.
Tu n'en as pas parlé, mais tu l'as mis dans les papiers, et donc j'étais très anxieux de te poser la question. Quel est le rôle de l'islam dans l'Église, dans l'histoire, d'un point de vue eschatologique? Ça sert à quoi?
Tu as raison, c'est une grande énigme, l'islam. Quel est le secret de son formidable rayonnement? Il y a une grande idée de Dieu. Une grande idée de Dieu qui n'est pas simplement empruntée aux juifs et aux chrétiens, mais qui, il y a eu un monothéisme primitif qui est très important. Les anthropologues nient ça, mais il y a William Schmidt qui est un anthropologue allemand, il est l'auteur de la revue Anthropos, qui a écrit 12 tomes en allemand à l'époque de Durkheim, où il montre des preuves d'un monothéisme primitif qu'on trouve en Chine, par exemple, avec Mozu, qu'on trouve dans des civilisations très anciennes, par exemple les Pygmées. Et il a fait une carte de l'ancienneté des courants de population, et les populations qui étaient protégées par les déserts, par les océans, qui étaient donc en dehors de tous les circuits, gardaient un monothéisme primitif. Donc l'islam a gardé un monothéisme strict, et puis il y a eu une mobilisation des deux appétits humains, l'irascible, la guerre, et le concupiscible, les règles de la famille en islam sont plus laxistes que chez les juifs et chez les chrétiens. On peut avoir 4 épouses, Mahomet lui-même en a eu 14, mais il a joué, beaucoup de chrétiens se sont convertis à l'islam pour profiter de cette législation. Quand les cavaliers sont arrivés dans l'Empire byzantin, on n'a pas forcé tous les chrétiens à devenir musulmans. Beaucoup pour éviter l'imposition et de pouvoir bénéficier de ce mariage à quatre, ont préféré devenir musulmans.
Même en Espagne, par exemple. Bon. L'Andalousie, ouais. Certains musulmans en veulent à la lecture européenne de la Reconquista en disant mais. C'est pas une reconquista, nous on est venus, ils étaient déjà à moitié à rien, ils sont tous ils suivis.
Soit la divorce, soit autre chose.
Bon, alors la civilisation de l'amour, faut l'attendre, quoi.
Faut la préparer.
C'est l'enseignement social chrétien.
J'ai une autre question, là, parce que c'est le moment des questions. Il me semble. On n'explique pas, on est trop flou sur la réalité, d'une part, de la résurrection et de la gloire du ressuscité. La gloire du. Si vous voulez pas. Marie, par exemple, c'est pas la peine de tourner autour du pot, elle est dans la gloire, Marie, avec son corps et son âme.
Tous les saints.
Elle
aussi.
Est dans la gloire. Mais les saints ne sont pas dans la gloire encore, puisque la résurrection des morts n'est pas encore faite.
Ils voient Dieu tel qu'il est.
Ils voient Dieu, mais sans leur corps.
Ce ne sont plus des personnes.
Non, ils sont dans la gloire, mais ils sont
c'est
pas
vrai.
Avec leur corps.
Ils sont plus des personnes parce qu'ils n'ont pas de corps.
Ah ben voilà, ça c'est intéressant.
Ah ben si, les anges n'ont pas besoin d'avoir un corps, donc ils sont des personnes, mais les âmes qui n'ont pas de corps ne sont plus des personnes.
D'accord.
Et ils vont retrouver le statut de personne avec leur corps.
D'accord.
Ouais. Mais pourtant, pourtant dans la communion des saints, on a des relations d'amitié. De filiales réelles avec des saints qui sont.
Absolument, mais sans leur corps.
Mais ce sont quand même des personnes.
Et les anges n'ont pas de corps non plus, on leur met des ailes parce que ça rend service pour les repérer. Mais.
mon père.
Mais les anges, ils doivent sourire quand on leur fait des anges, des lettres, des ailes. Ils doivent sourire.
Mon père, votre notion de personne sur les morts qui n'ont pas encore leur corps, récupérer leur corps de résurrection, ça me gêne un peu.
Comment ?
Votre notion de personne, de dire qu'un mort, un défunt, n'est plus une personne, parce que...
Mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Saint Thomas et Saint l'Église Thomas. Qui le dit.
Ah oui, Saint Thomas l'a inventé.
Il n'y a rien d'inquiétant, parce que...
Moi, je... Et je vous signale, si ça peut vous consoler, que Saint Thomas pose la question, dans la première part, il dit, quelle est la... est-ce que les anges infidèles ont été nombreux et quelle est la proportion entre les fidèles et les infidèles? Alors il répond, c'est assez consolant, que la majorité des anges ont été fidèles. Et il dit pourquoi? Parce que la raison... a plus d'attrait, enfin, que c'est un accident de refuser Dieu. Et que, je voudrais le formuler à sa manière, il dit, l'échec d'une réalité, même pour les personnes libres, la majorité... correspond à ce qui est le plus sensé. Voilà. Donc pour lui, il y a davantage d'anges sauvés que d'anges. Mais comme il ajoute que la quantité d'anges est tellement innombrable que les mathématiques sont incapables d'y faire face. Voilà.
Mais pour l'âme qui est privée du corps, il n'y a pas de problème du temps.
Mais ils voient Dieu tel qu'il est. Ils n'ont pas besoin.
Dans un moment, dans l'éternité, ça veut dire dans un moment. Parce qu'il n'y a pas de plan temporel.
Encore une chose, mon père. Sur la terre, notre mission d'homme, de femme, est de porter du fruit. Après notre mort, on ne pourra plus porter de fruits, mais on pourra faire du bien quand même, parce que la petite Thérèse, par exemple, est venue pendant la Première Guerre mondiale, a sauvé des soldats, on sait. Là.
Elle avait accumulé des grâces. Et de ce point de vue-là, notre situation est préférable aux âmes du purgatoire et même aux saints, parce que les saints ne peuvent plus rien augmenter, oui. Tandis que nous pouvons augmenter constamment notre surface d'accueil. Alors, on n'est pas en prison, il faut dire ça.
Oui, d'accord.
On est en exil, c'est pas la même chose.
C'est ça, très intéressant.
On a un patrimoine à
construire. Ils peuvent nous envier même de notre possibilité de répondre alors qu'eux ne peuvent plus rien faire. Mais ils ont fait souvent beaucoup de choses.
Enfin, s'il arrive une situation apocalyptique, ce ne sera peut-être pas très drôle.
Qu'est-ce que vous appelez apocalyptique et qu'est-ce que vous appelez drôle ?
Dans des moments épouvantables, je ne sais pas quoi, parce qu'on a l'air de dire tout à coup, ça va être l'apostasie générale.
Ah ben c'est Saint Paul qui le dit.
Je sais bien, mais j'aime mieux, comme je suis assez âgé, je risque de ne pas connaître ça.
Non mais ça c'est très courageux, mais si au moment de la bataille, vous préférez rentrer chez vous, c'est une manière d'agir. Il faut mieux.
Il est dit justement au moment de la parousie, en fait, que à ce moment-là, au ce moment apocalyptique, les corps, en fait, nous, nous sommes ceux qui seront sauvés, qui ont été fidèles, sont prêts au ciel.
Non, mais il y en aura beaucoup qui seront sur la terre, qui ne connaîtront pas la mort, voilà, dit Saint Paul. Quand le Christ reviendra, il y aura des milliards d'êtres humains qui ne seront pas morts. Et qui seront jugés à ce moment-là.
Oui, hein. Voilà.
Tous, nous dit Saint Paul, ne seront pas morts. Alors écoutez, pour ne pas alourdir mon dossier du purgatoire, je vais payer mes dettes là.
Il y a Père Fouché qui avait une question.
Deux interventions. Si vous voulez des informations précises sur la résurrection de la chair, j'ai écrit beaucoup à ce sujet.
je m'occupe de l'association Jonathan Pierre Vivant. Ce sont des parents qui ont perdu des enfants. C'est donc pour eux la grande question. J'en ai même parlé à Radio Notre-Dame. Je suis prêt à vous donner tel ou tel livre. Il suffira que vous me donniez votre adresse et vous l'enverrez gratuitement. Deuxièmement, Notre-Dame des Peuples a été, je mets le mot entre guillemets, déportée au Japon, à Akita, où je suis allé, parce que c'est aussi Notre-Dame des Peuples, qui n'avait pas toujours été bien acceptée, mais reconnue quand même. Alors c'est une vierge, moi j'y suis allé avec un groupe, la voyante existait encore il y a quelque temps, on ne l'a pas vue, elle a pleuré pendant 4 jours, comme à Syracuse. Et les gens ont pu venir, et ça a été autorisé par l'évêque du lieu et un certain cardinal Ratzinger.
Dès 74. Absolument. Et elle a annoncé les catastrophes qui sont arrivées au Japon.
Alors... À la résurrection de la viande. c'est toute la notion de corps spirituel. Ah, mais
tout à fait.
Je ne suis pas engagé là-dedans, mais c'est merveilleux et c'est quelque chose qui se fait à chaque instant.
Oui. D'accord.
Cette mort et cette résurrection.
Oui.
À la fin, pour savoir plus, au nom de Saint-Faustin, je vous invite à sa maison
d'accord.
L'année prochaine. Mais il faut s'annoncer. Oui. Et plus en nom de notre évêque qui m'a dit qu'il faut faire vivre cette maison, qui est vide pour le moment. C'est acheté, il y a des religieuses, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Oui, parce qu'il vient d'ouvrir.
Alors, il est
6h30.
Alors, est-ce que vous souhaitez voir le DVD?
Oui.
Oui. Bon. À qui j'ai touché?